Bye bye.
Le temps des copains, l'émission des années 60.
Salut les copains
sur RVE.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Demande l'esprit de guerre, donne-moi la main.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, Radio France va porter plainte après les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise, dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, fustige les journalistes de la cellule investigation de Radio France. Il les qualifie de menteurs et de tricheurs et appelle ses partisans à les pourrir. Des propos tenus après la publication d'une enquête mettant en cause ses comptes de campagne, notamment les facturations de la société de sa conseillère en communication, Sophia Chikirou. 4 interpellations après une agression homophobe à Paris vendredi soir. Les faits se sont déroulés boulevard Sébastopol, dans le 1er arrondissement de Paris. 4 hommes sont soupçonnés d'en avoir agressé un autre en prononçant des insultes homophobes. La victime est hospitalisée. Une enquête est ouverte. C'est la 2e agression à caractère homophobe cette semaine dans la capitale. SOS Homophobie organise une manifestation aujourd'hui, place de la République, pour dénoncer ces violences et toute une série d'agressions homophobes dans la capitale. L'association demande au pouvoir public de prendre des mesures rapides et concrètes. De nombreuses questions sans réponse après la mort du journaliste Jamal Khashoggi, après les aveux de l'Arabie Saoudite dans l'affaire de la disparition du journaliste tué à l'intérieur du consulat du Royaume à Istanbul. La communauté internationale demande la tenue d'une enquête. Les explications de Riyad ne suffisent pas et ces exhortations diplomatiques interviennent alors que la presse turque publie de nouvelles révélations accablantes pour les Saoudiens, selon lesquelles Jamal Khashoggi a été torturé et assassiné dans le consulat dès le jour de sa disparition. Le président dans l'ombre de son premier ministre, selon le dernier sondage IFOP pour le JDD, la cote de popularité d'Emmanuel Macron stagne à 29%, alors que celle d'Edouard Philippe s'élève à 41% d'opinion favorable, un écart, voire même un déséquilibre inédit depuis le début du quinquennat. Enfin, Thierry Henry n'a pas porté chance à son équipe, nommé une semaine plus tôt sur le banc de l'AS Monaco. Le champion du monde de 98 a vu son équipe s'incliner 2-1 sur la pelouse de Strasbourg pour son premier match comme entraîneur en Ligue 1. Bonne journée.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport. Avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en ce dimanche 21 octobre. Rambouillet avait été à l'honneur la semaine dernière avec l'hippisme, le tennis et le volleyball. Il va continuer à l'être puisque on reçoit le maire adjoint chargé des sports et des finances, Gaël Barbotin. Gaël, bonjour.
Bonjour Philippe.
Merci d'avoir répondu, j'allais dire comme très souvent, à notre invitation.
Ah mais c'est toujours un grand plaisir d'être dans les locaux d'RVE je dirais auprès des auditeurs d'RVE qui sont, je le sais, des fidèles de la radio.
Voilà. Alors naturellement, on va parler des projets et ils sont très nombreux pour 2019. On va aussi parler un petit peu du bilan de la saison passée et puis de cette rentrée qui s'est donc effectuée. Bon, d'abord, très brièvement, comment s'est faite la rentrée? Pas de gros problèmes, tout va bien pour le monde sportif rambolitain?
Le monde sportif rambolitain, il est à l'image de la société, c'est-à-dire qu'en fait, il vit une période qui est quand même une période un petit peu compliquée, qui est liée en même temps à notre capacité, celle que nous a laissé l'État, pour pouvoir la soutenir, pour pouvoir soutenir l'ensemble des adhérents, l'ensemble du monde sportif local, celui qui est à la base, je dirais, à la base de la vie d'une forme de vie de société. On a auprès de nous des gens qui sont des passionnés, des gens qui sont investis, et nous, notre volonté au niveau de la ville de Rambouillet, c'est bien évidemment de pouvoir les accompagner sur leurs projets. À partir du moment où on est de notre côté et en même temps contingenté, je dirais d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue financier, d'un point de vue accompagnement au niveau de l'État, je rappelle la baisse drastique des dotations globales, notamment la dotation globale de fonctionnement.
Je crois savoir que vous avez signé la pétition, Gaël.
Oui,
de la baisse du budget.
Oui, non, mais
un moment donné, en plus.
Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
la nous quadrature... aussi on a signé. Hein.
Voilà. Mais la quadrature du siècle, ouais. on peut pas la résoudre. Nous, c'est pas notre vocation, c'est pas notre mission. L'État est là, il doit pouvoir nous accompagner, je dirais, dans les projets qui concernent notamment les territoires ruraux. Alors on entend dire ça et là par nos députés, la majorité, etc. Oui, oui, on accompagne le monde rural, mais enfin, quand on fait le bilan, eh bien, au bout du compte, on a malgré tout une vision très urbaine du monde rural et donc l'écoute effective du monde rural, et notamment aussi dans le domaine du sport, sur l'accompagnement dans les équipements sportifs, par exemple, eh bien, fait défaut. Je le dis, je l'annonce de manière, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vis, et ici, sur Rambouillet, comme dans d'autres communes, je dirais, de notre territoire, et notamment de Rambouillet Territoire.
Alors, au niveau infrastructure, ça y est, tout est en règle. On sait qu'il y a eu très longtemps des problèmes pour le foot, pour le rugby, hein,
alors, on
des
a...
vestiaires, tout ça et
oui,
tout.
Oui, oui,
voilà.
Alors,
aujourd'hui,
tout ça,
même
on a...
déjà des
oui.
certains plafonds de gymnase hein, qui,
ah,
qui posaient
oui,
problème.
Oui, 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 on a eu certains plafonds de gymnase, je sais auxquels tu fais référence, ouais. cher Philippe, c'est celui du gymnase C. Mmh. Bien évidemment, nous, notre objectif, c'est de pouvoir avoir des installations qui soient en permanence en adéquation avec les besoins du monde associatif et des clubs qui utilisent ces installations. Donc nous avons été amenés à remettre à niveau un certain nombre d'équipements, notamment les équipements gymnases, les terrains de grands jeux, notamment avec le terrain de rugby foot avec les gazons synthétiques, pour lesquels d'ailleurs au niveau de l'Île-de-France, hein, en tant que la conseillère régionale, justement, on a aujourd'hui décrété une forme de moratoire sur ces équipements. Pourquoi? Parce que des interrogations se sont posées sur la nature des revêtements. Objectivement, l'ensemble des études dans le cadre du groupe de travail sur justement les aires de grands jeux dont je fais partie à la région tendent à démontrer que de l'innocuité, je dirais, de ce type de revêtement et qu'aujourd'hui on est arrivé dans une forme de volonté de remplacement quelque part d'un modèle par un autre.
On est 2004 hein, pour le foot, hein. on se rappelle, c'est Aimé Jacquet qui l'avait inauguré.
Ah oui, oui, ouais, c'était, ouais. C'était un bon moment, mais là ouais, c'était ouais. le premier terrain.
Oui.
Hein, c'était le premier des deux terrains. C'était celui du Vieux Moulin. Ce terrain a vécu 8 ans, puisque au-delà des 8 ans, justement, était sur la première génération des terrains synthétiques. Donc nous avons mené une campagne de, pardon, de remplacement de ce terrain synthétique dans un terrain, je dirais, nouvelle mouture, avec notamment des fibres qui sont régénérantes. Enfin, on peut trouver un tas de termes, mais qui permet en fait d'augmenter sa longévité, d'augmenter aussi le confort de jeu et de faire en sorte que nos footballeurs, les plus jeunes comme les plus anciens, eh bien, puissent pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions possibles.
Oui, et puis le rugby, c'est plus récent par contre.
Et le rugby,
ans, hein.
et le rugby ouais, c'est beaucoup plus récent. Ouais, ouais. Là, on est sur le Racinet. Et au Racinet, on a eu justement comme volonté de faire un vrai complexe sportif. On a donc trois aires de grands jeux extérieurs hein, qui sont à la fois un terrain en herbe, donc on est plus sur une orientation rugby, je dirais, sur le Racinet, puisqu'on a le terrain en herbe. On a aussi un terrain en schiste. Alors un terrain en schiste qui n'est pas plébiscité, c'est le moins qu'on puisse dire, par les footballeurs et par les sportifs. Donc une réflexion peut être est menée en tout cas à terme, mais en tout cas aujourd'hui, avec le fameux moratoire sur les aires de grands jeux au niveau du synthétique, les interrogations, on va attendre d'avoir toutes les réponses et puis à partir de là, on lancera le projet. Et en ce qui concerne, bien évidemment, le troisième aire de jeu, c'est le terrain synthétique, je dirais, qui est plébiscité en termes de jeu, en termes de confort, qui est orienté justement, je dirais, par rapport à son épaisseur, orienté rugby. On est sur une génération, vraiment sur la dernière génération des terrains, qui prend en compte à la fois une couche d'amortissement et une couche de je dirais de l'est et ça mélangé, ce qui fait que on est aussi sur un terrain avec une longévité accrue et une capacité de jeu qui est bien évidemment beaucoup plus importante en termes de durabilité.
Bon, le tennis, ils ont eu leurs cours qui ont été améliorés, notamment au tennis club de la Clairière, on s'en rappelle aussi hein.
Oui, tout à fait, le tennis club de la Clairière,
un cours supplémentaire couvert.
Voilà, un cours supplémentaire couvert, et là, qui est le fruit d'un véritable partenariat entre une association et la commune, la municipalité, dans la mesure où, en fait, la volonté du club de pouvoir disposer d'un cours supplémentaire, d'un cours couvert supplémentaire, eh bien, a été, je dirais, très orienté de telle manière que le club participe quasiment à la totalité du financement de l'enveloppe. Nous avons effectué, au niveau de la commune, l'ensemble des travaux sur les abords. sport, mais l'enveloppe a été prise en charge par le club de tennis, bon, après une analyse financière, etc. Par contre, le porteur financier est resté la commune, puisqu'en fait, derrière, il y a aussi à prendre en compte des logiques purement financières, liées notamment à ce qu'on appelle le FCTVA, qui est le fonds de compensation de la TVA, qui permet de récupérer quand nous sommes communes, alors qu'une association ne peut pas le faire. Donc ça nous permet d'avoir des tarifs, je dirais, plus accessibles par rapport à ce type d'équipement.
Alors, on en avait parlé il y a un an. Là, vous n'êtes pas complètement le responsable. La piscine, ça en est où
Alors, la piscine, c'est un projet compliqué.
Toujours en travaux, c'est compliqué.
Oui, c'est un projet compliqué parce que ces infrastructures, et nous ne sommes pas les seuls, je crois que ça a été. Il y a d'autres communes dans les Yvelines pour lesquelles, je dirais, on découvre en même temps, je dirais, des fragilités de structure au fur et à mesure où les travaux avancent. Donc, on est aujourd'hui sur un bassin olympique qui est construit, qui est couvert, qui est dans une prochaine mise en eau, avec par contre une installation ancienne qui, au fur et à mesure où les travaux avancent, ont laissé apparaître des défaillances liées à un vieillissement et à la nature de la structure telle qu'elle avait été prise en compte. Donc là, à partir de là, aller plus avant dans l'analyse, ce serait aller peut-être un peu trop loin. À ce niveau-là, on est en train de continuer au niveau de la communauté d'agglomération à faire en sorte de bien comprendre où sont les causes, comment elles s'analysent, dans quelles circonstances on peut y remédier. Enfin là, ça y est, il y a déjà bien évidemment des solutions qui sont apportées. Je laisserai à ceux qui sont chargés du suivi du dossier de la piscine, bien évidemment, d'aller un peu plus loin dans les propos, parce que de mon côté, le niveau d'information, bien évidemment, que je peux dévoiler aujourd'hui, enfin que je peux donner aujourd'hui.
Oui, parce que ça traîne, hein, le grand public, il a le sentiment que cette affaire traîne depuis...
Mais vous savez, la plus grosse difficulté pour un élu, vraiment, la plus grosse difficulté pour un élu. Quand on est élu, c'est parce que derrière, on nourrit auprès des électeurs des aspirations. On nourrit un projet, on nourrit des envies. On nourrit aussi, des besoins ou des réponses à des besoins. Et quand on travaille sur des projets qui sont structurants, tels que sont les projets de la piscine ou de quelques grosses infrastructures, je pense à la lanterne, etc., bien évidemment, à la fois, ça suscite des attentes extrêmement fortes. Comme elles sont structurantes, ça veut dire qu'elles n'ont pas de capacité, de remplacement immédiat ou de fonctionnement en parallèle avec d'autres infrastructures, à proximité. Donc nécessairement, à un moment donné, il faut passer par là, c'est-à-dire mettre en place une politique de travaux, de réhabilitation, d'agrandissement, d'adaptation, à une évolution à la fois des pratiques, mais aussi à une évolution de la population. Le bassin de la population attend aujourd'hui des infrastructures qui sont telles que celles que nous avons imaginées au niveau de la communauté d'agglomération, au niveau de la piscine, par exemple. Évidemment, à partir du moment où on travaille dessus, il y a des difficultés qui peuvent apparaître, ce sont des aléas. Si on pouvait les prévoir, bien évidemment, elles seraient intégrées dès le départ, mais comme ce sont des aléas, alors il y a des chances, d'un point de vue, probabilité, il y a des chances d'augmenter les aléas. Plus la structure est à la fois vieille et importante, on est sur un aléa important. On n'a pas de capacité à prendre clairement une boule de cristal. On ne sait pas faire. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas faire et les élus non plus. Ça n'est pas leur mission. Donc la plus difficile, c'est ce que je vous disais tout de suite, pour un élu, c'est de dire ce que nous avions prévu, ça ne fonctionne pas comme c'était prévu. Et parfois, c'est aussi d'être amené à renoncer, à dire non. Ça, c'est le mot le plus compliqué pour un élu à dire. Donc moi, j'ai connu dans le passé, ou je connais autour de moi, pas à Rambouillet, mais en tout cas dans d'autres territoires, des élus qui facilement disent oui, bien sûr, on va faire, oui, bien sûr, on va faire, et qui, à partir de là, glanent une forme d'attention positive à leur égard, mais au bout du compte, c'est les autres qui gèrent. Et on a quand même sur notre territoire, certaines personnalités politiques d'envergure nationale, au niveau local, faire des promesses et qui pour moi sont très compliquées. Demain pourront la tenir et pourraient la tenir ces personnalités, Et donc, il faut savoir s'engager avec raison et malgré l'engagement, eh bien, l'aléa peut survenir. C'est le cas pour les piscines, c'est le cas aussi, je le dis, avant-hier, j'étais au Hand, puisque nous avons engagé un projet de réhabilitation du gymnase de la Louvière. Ce gymnase de la Louvière, nous avions, il y a maintenant 6 ans, 7 ans, un immense projet, un très beau projet qui était envisagé de destruction, reconstruction intégrale sur ce site. Mais c'était avant, avant le 24 avril 2014, le 24 avril 2014, on a appris qu'on intégrait à l'intérieur du calcul des contributions de la ville de Rambouillet, notamment, enfin des communes, eh bien le niveau de revenu, et bien évidemment sur Rambouillet, on a un niveau de revenu qui est, au travers de ce que l'on peut constater, qui est supérieur à la moyenne nationale. Ce niveau de revenu, il est un peu artificiel, parce qu'en fait, il est la conséquence de gens qui vont travailler à l'extérieur de Rambouillet. C'est-à-dire qu'en fait, on a un apport de richesse, mais par contre, pas de dynamique économique qui permette de valoriser suffisamment peut-être notre territoire. Donc, on a un niveau de contribution important par rapport à une dynamique économique qui n'est pas dans la même lignée, je dirais. Et à partir de là, eh bien, on se retrouve à contribuer d'une manière extrêmement forte, ce que je disais, j'ai un peu dans mon propos introductif sur les finances locales, et on se retrouve à partir de là bien évidemment à être obligé de sacrifier certains projets que nous avions envisagés. Alors je rappelle, 24 avril 2014, c'était un mois et demi après les élections municipales, donc tous nos projets, quelque part, ont dû être revus et corrigés. Et donc, sur ce fameux gymnase, eh bien, on se retrouve avec un projet de réhabilitation plus que de démolition-reconstruction, sachant qu'on a eu des problèmes d'amiante, qu'il a fallu les prendre en considération. La verrière a été remplacée avec justement la prise en compte de ces contraintes liées à la fois à la dimension budgétaire, où il fallait qu'on trouve une dynamique, un système, je dirais, de contingence par rapport à l'amiante, qui soit relativement en même temps économique, pour ne pas mettre l'ensemble du bâtiment sous cloche, c'était pas possible. Et là, aujourd'hui, on a au niveau du sol, on a un sol qui nous a fallu retravailler à la demande en même temps, je dirais, du club, qui nous disait que le sol devenait dangereux, parce qu'il y avait des irrégularités sur le sol. Donc on a pris l'engagement d'apporter des réponses par rapport à ça, et au fur et à mesure, là aussi, où les travaux ont avancé, on s'est retrouvé avec une contrainte de structure. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques et liés aux garanties, liés à des choses comme ça, mais aujourd'hui nous avons une réponse à apporter qui n'est pas la meilleure des réponses, ça c'est clair. Et ça, c'est ce que j'ai dit avant-hier au niveau du club et face aux entraîneurs. Je dis bien face aux entraîneurs parce que j'avais une forme de mécontentement qui s'exprimait devant moi, et je le comprends et je le conçois. La seule chose, c'est que ce qui est important pour moi, c'est que le 5 novembre, alors le 7 novembre, le club aura la possibilité de reprendre ses entraînements à l'intérieur du gymnase.
Ils sont où actuellement, les entraînements ?
Alors aujourd'hui, en fait, on a éclaté les capacités de jeu à la fois sur le vieux moulin et sur...
Sait déjà les partages entre les différentes sections. Toujours facile.
Oui, c'est pas toujours facile. Donc il y a à la fois sur le vieux moulin, et il y a à la fois donc dans le gymnase, donc dans un, là aussi, qui est un très ancien gymnase qui avait été construit de mémoire par les services techniques de l'époque. C'est pour vous dire, on est dans une forme, je dirais, de construction qui aujourd'hui ne serait plus entendable. Et puis il y a le gymnase Catherine de Vivonne, parce qu'il faut qu'il y ait un sol un peu spécifique, le gymnase Catherine de Vivonne qui accueille aussi. Alors on a en parallèle à tout ça un jeu de chaises musicales. Moi, je tenais à remercier les associations qui ont laissé des créneaux. Alors parfois, peut-être de manière insuffisante, en tout cas c'est comme ça que c'est vécu par certains membres du club de certains entraîneurs, mais je le conçois là encore. Mais moi, je remercie tous ceux qui à un moment donné ont dit, même pour une heure, même pour deux heures, même pour trois heures, pour certains clubs, je pense par exemple au tir à l'arc, le tir à l'arc, c'est carrément à accepter de ne jouer que à l'extérieur, enfin de jouer de tirer leur trait que à l'extérieur. Tant mieux il faisait beau, mais là, avec la nuit qui va tomber, c'est quasiment, si jamais on ne trouvait pas une solution, c'était une incapacité à tirer leurs flèches, quoi. Donc à un moment donné, ce qui est important, c'est cette solidarité. J'aimerais bien qu'elle puisse, par rapport à certains, s'exprimer peut-être de manière plus importante au niveau du sport, parce que c'est un des axes forts. Quand moi, je me souviens très bien sur la création du service des sports qui s'est fait derrière devant la mairie, là, sur la petite place dans le quadrilatère, ce qu'on appelait le... on avait... préciser, je me souviens dans mon propos, que les valeurs du sport reposaient aussi évidemment sur la solidarité interclub, que le service des sports avait pour vocation de coordonner cette solidarité interclub, d'apporter un plus en termes de coordination et de facilitation, je dirais, des rapports des uns par rapport aux autres, surtout pas de botter en touche et de laisser les clubs se débrouiller par eux-mêmes tout seuls, mais en tout cas d'avoir la capacité à pouvoir les accompagner sur leurs problématiques. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est notre objet, moi c'est ma volonté en tant que, je dirais, homme politique, je mets des guillemets parce que c'est pas comme ça en tout cas que je me décris, mais en tout cas accompagnant au travers de mon élu, au travers de ce mandat d'élu, pardon, d'avoir la capacité à pouvoir répondre aux besoins des clubs.
Oui. Et entre Rambouillet Sport et ceux qui ne sont pas Rambouillet Sport, ça va, tout le monde joue le jeu?
Alors tout le monde joue le jeu avec plus ou moins de bonheur.
Oui, bah oui.
Avec plus ou moins de bonheur, mais en même temps, chacun cherche à pouvoir rester dans son niveau de performance. Rambouillet Sport, je le rappelle, a une vocation spécifique liée à la compétition, donc et pas simplement entre guillemets loisir. Je dis c'est pas de faire un niveau de démontrer qu'il y a un niveau spécifique entre la compétition et la non compétition. La seule chose, c'est que la compétition, il y a une recherche de résultats et cette recherche de résultats, elle passe nécessairement par la mise en place de disponibilité, de moyens, d'équipements et de qualité de l'ensemble de ces équipements pour pouvoir accéder, je dirais, au niveau supérieur. Aujourd'hui, on a les contraintes. On est lié à une explosion aussi du nombre d'adhérents. Je le rappelle, entre 2013, entre 2013 et 2018, en l'espace de 5 ans, nous sommes passés sur Rambouillet de 7500 adhérents à 10600 adhérents. Donc, à un moment donné, ça y est, on a rempli la coquille. Donc, certains pourront nous dire, bah écoutez, vous pouviez prévoir. Oui, on peut prévoir, sauf que notre objectif, c'était avant le 24 avril, de mettre à disposition des infrastructures supplémentaires. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il faut qu'on trouve le juste niveau entre les prélèvements qui sont faits au travers des impôts locaux et de la mise à disposition des services municipaux, et notamment des usagers et des habitants de la ville, ce qui pose d'ailleurs, j'ouvre juste une parenthèse, une grosse interrogation pour moi sur le fondement de l'abandon de la taxe d'habitation. Les usagers ne seront plus contributeurs en tant que tels, uniquement les propriétaires. Ça me pose un problème, parce que notamment au niveau des équipements sportifs, eh bien on n'aura plus la valeur des choses. Aujourd'hui, moi j'ai encore la capacité, en tant que à la fois adjoint en finance et à la fois adjoint au sport, eh bien de pouvoir expliquer en toute légitimité, en tout cas j'espère que c'est perçu comme tel, que eh bien il faut trouver le juste niveau entre le niveau de prélèvement, enfin d'imposition, et puis le niveau de mise à disposition d'installation. C'est le jour où nous n'aurons plus, je dirais, ces prélèvements, notamment liés directement aux habitants par la taxe d'habitation, nécessairement, ben, ça veut dire que les infrastructures qu'on met à disposition des habitants n'ont plus de valeur. À partir de là, tout est dû. Moi, ça me pose un problème de fond, en tout cas, ça je voulais le dire, parce que c'est quelque chose qui me travaille, parce que comment est-ce que nous allons répondre en tant qu'élus locaux aux sollicitations qui vont nous être posées. Ça pose un vrai problème. À la fois, ça pose un problème de mandat d'élu, de capacité d'élu à pouvoir justifier d'une politique, et notamment en matière sportive en ce qui me concerne, et ça pose une capacité aussi, notamment au travers des équipements dans les communes rurales, de pouvoir travailler, je dirais, dignement sur des projets qui sont à la hauteur des attentes des uns et des autres. Moi, je suis profondément inquiet, je vous le dis.
Gaël, il y avait aussi un problème récurrent, très longtemps, c'était la hauteur de la salle de tennis de table. Ça y est, c'est résolu, ça, c'est réglementaire.
Alors, notre salle...
Parce qu'ils ont eu des problèmes,
notre salle, vous savez qu'elle a été, elle a été décaissée à l'époque. Donc, en fait, sur la salle de tennis de table, la salle Régien Bar, nous avons... Ouais. On parlait tout à l'heure des mises à niveau et des installations. Nous avons remplacé, il y a 3 ans maintenant, l'ensemble du sol pour faire un sol qui soit nickel et totalement adapté à la pratique d'un jeu en compétition nationale. Donc, il y a la possibilité, pas beaucoup de tables, hein, parce que vu la surface, on peut mettre que 2 tables. Mais à l'époque, ça avait été un choix aussi du club, avec l'ancien président, de dire on préfère rester en cœur de ville avec une infrastructure plus petite, plus concentrée, plutôt que de faire une très grosse infrastructure dans laquelle on avait imaginé pouvoir, mais c'était encore avant 2014, pouvoir imaginer mettre 8 à 10 tables. Là, on est à 2 tables quand on est en championnat de France, quand on est au niveau national. Par contre, ça permet de jouer à 8 tables, côte à côte, en entraînement, etc. Avec une installation qui a subi de profondes mutations en matière d'équipement. Puisque nous avons modifié à la fois l'éclairage, nous avons alors les éclairages OLED, donc ce qui fait qu'on a une luminosité constante qui est tout à fait conforme, ça c'est la première chose. On a refait tout un travail sur l'humidité de la salle par des systèmes de ventilation, on a refait aussi tout le système de chauffage, et à chaque fois qu'on engage un investissement, et ça c'est aussi un maître mot qui est à prendre en ligne de compte, c'est quand on engage un investissement, quel qu'il soit, sur nos bâtiments ou nos infrastructures, notre objectif, c'est de savoir quelle est l'économie qu'il va pouvoir générer. Je donne un exemple sur la salle Régin Barre, 60% d'économie sur l'électricité. Ces 60% ont fait d'ailleurs que Engie, ex-EDF, nous a appelé en nous disant « Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un problème de connexion sur le compteur ?» Eh bien non, ça n'était pas le cas. C'est simplement les économies que nous avons pratiquées.
Très bien. Allez, on envoie la pub et la musique et puis on reparle du reste et notamment des nombreux projets qui vont donc arriver sur 2019.
DMP Doc des matériaux du Perret, votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et storiste des grandes marques pour tous vos matériaux, le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des matériaux du Perret, 01 30 46 30 97. Briffaut Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Briffaut Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site briffaut-électricité.com.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe, je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinturé, caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle?
Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme.
Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
Acheter des tableaux
et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre,
un peu patriotard.
Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région,
c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession.
Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Un dernier chabrol, un petit coup de gnoll, jeter ma rengaine.
Elle veut juste dire je t'aime.
Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, serre-nous à boire,
on a les yeux qui brillent.
Je t'aime.
Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, on va saluer un habitué de ce micro, c'est Arnaud qui est là. Hein, il est souvent dans Tribune Foot, ça va Arnaud ?
Bonjour Philippe, bonjour Monsieur Barbotin. Donc voilà, un plaisir d'être là pour parler de l'actualité sportive à Rambouillet, dans le sud des Yvelines.
Voilà, alors Gaël, avant de parler des projets qui arrivent, l'année s'était finie de façon très sympa. On a vu le petit Aka qui était venu, hein, qui est revenu à ce micro le 30 septembre. C'était sympa, en plus c'était le 15 juillet, donc c'est un jour historique.
C'était pour moi. Mondial. Mais ça, voilà, ce jour-là, c'est pour moi en tout cas, c'est ce qui justifie mon engagement politique au niveau de la politique locale. Je dirais tout le reste quelque part, c'est oui, comme je disais tout à l'heure, c'est de l'accompagnement par rapport à certains types de projets. Alors bien évidemment, enfin, j'ai pas vocation à rentrer dans ma vie privée, mais c'est un fait que quand j'ai en face de moi des enfants qui sont investis pour faire passer les messages, comme quoi la vie vaut la peine d'être vécue, comme quoi à un moment donné on ne peut jamais se battre tout seul contre l'ensemble, je dirais, des aléas de la vie, tout le reste. Je sais presque dire, c'est voilà, c'est à relativiser. Le jeune Aka, accompagné par ses parents, on peut pas le faire tout seul, c'est impossible, mais accompagné par ses parents, a décidé de relever un défi. Ce défi, il l'a relevé avec brio. Il l'a relevé avec enthousiasme. Il l'a relevé pour dire aux autres, regardez la maladie, la difficulté de la maladie, éventuellement les perspectives néfastes d'une maladie, eh bien, ça n'est pas en soi une fatalité. Bien évidemment, il y a des complexités, etc., qui sont à prendre en ligne de compte. Je le rappelle, donc, jeune diabétique. Hein,
oui, avec, il est vu.
Voilà, oui, oui. Et donc, moi, c'est un jeune, je vais presque dire encore un enfant, mais avec une maturité telle que quand on l'entend s'exprimer, quand on l'entend, je dirais, poser un regard sur le monde, le reste mérite. Mmh. Franchement, le reste mérite d'être relativisé.
Le 30 septembre dans l'émission.
Le reste mérite d'être relativisé. Donc voilà, merci de me donner cette opportunité d'exprimer pourquoi quelque part un engagement politique mérite d'être vécu. C'est par rapport à des situations, par rapport à des enjeux de cette nature qui dépassent, je dirais, nos petits problèmes perso de proximité. Voilà.
Un mot sur les subventions. Tout le monde est satisfait des subventions ?
Personne.
Et comment se font-elles ? Personne. Est-ce qu'elles se font en fonction des résultats ou des pratiquants ?
Personne n'est jamais satisfait des subventions.
Ouais, j'ai fait exprès de poser la question.
Mais par principe, par nature. Quoique, moi j'étais extrêmement surpris, et de manière très positive, de la manière dont la participation, je dirais, aux modalités que nous avons mises en place au niveau des subventions a été intégrée dans le monde sportif. Alors, les autres associations, j'en parle peut-être moins facilement parce que je les connais un peu moins sur leur fonctionnement interne. Je connais beaucoup d'adhérents, je connais beaucoup de bénévoles qui sont investis dans leurs associations. Je dirais que ça c'est un ancrage territorial de 40 ans qui fait que à un moment donné on connaît énormément de monde et on connaît les problématiques rencontrées par les uns et les autres. Mais au niveau des associations, les clubs sportifs ont vraiment joué le jeu. Nous avons revu l'ensemble de notre politique de financement des associations par, je le rappelle, une redistribution redistribution des modes d'attribution, à la fois sur le fonctionnement, où le fonctionnement s'était fait pour le fonctionnement, et puis après on travaille sur des logiques de projet ou d'actions qui sont d'opérations qui sont reconductibles annuellement. Les associations ont joué le jeu. La perception, la prise en compte de leur budget, liée à la fois à l'analyse de leur bilan et de leur compte d'exploitation, pour parler comptablement, eh bien, a fait que tout a été fait dans la transparence et la limpidité. Et nous avons, bien évidemment, globalement, contribué à l'effort municipal par rapport aux dépenses publiques. Et les associations ont joué vraiment le jeu. Et moi, là-dessus, je tiens vraiment à la fois à les remercier, à les en féliciter, parce que ça veut dire qu'ils ont trouvé aussi des systèmes de compensation en termes d'organisation interne. Et puis moi, j'ai découvert derrière des nouveaux ressorts. C'est-à-dire que vous avez sur certains clubs un investissement qui s'est révélé par le fait même que on n'attendait plus forcément ou nécessairement de la part de la ville une réponse immédiate à l'ensemble des problématiques d'intendance, par exemple. J'ai découvert une vie telle que moi je l'avais pu la vivre aussi au travers de certaines personnes que je connais dans certains villages, où c'est vraiment les clubs qui font vivre et pas la ville en tant que structure. C'est les clubs qui font vivre la vie du sport. Et bien à Rambouillet, on a, pour moi, à tort ou à raison, c'est ma perception, mais on a redonné une âme, je dirais, dans le domaine sportif, par la contrainte, donc sachons continuer à profiter de ça. Alors bien évidemment, cette année, nous avons mis en place un processus d'atterrissage budgétaire. Il nous a fallu, pendant les trois premières années, serrer les cordons de telle manière qu'il fallait se remettre à niveau pour pouvoir préserver nos marges de manœuvre d'un point de vue budgétaire. Malgré tout, nos fonds de roulement ont été amputés. Mais aujourd'hui, on est justement sur cette phase d'atterrissage qui va nous permettre de redynamiser, je dirais, l'approche budgétaire et de redonner, pas du mou tout de suite, mais en tout cas de stabiliser la baisse. Donc il n'y aura plus de baisse. Cette année, nous envisageons, bien évidemment, il y a des arbitrages qui seront à faire, mais nous envisageons le maintien à niveau à la fois des subventions et de l'ensemble du budget de la commune.
Bon, bah, c'est bien. Ça va rassurer tout le monde comme ça, c'est bien.
C'est bien. J'aimerais pouvoir en faire plus.
Oui, bien sûr.
C'est ce que je te disais tout à l'heure, Philippe. C'est la grosse difficulté de l'élu, c'est de se contraindre à dire non. Mais on est face à des réalités et il faut qu'on soit à la fois dans l'anticipation. Ça se travaille au travers, en même temps, d'un projet de territoire. Ça se travaille au travers d'une optique que l'on a envie de donner à son territoire. On pourrait très bien se dire, ça y est, on va industrialiser. On pourrait essayer de retrouver, gérer au niveau européen. Mais non, en même temps, on doit résoudre nous une quadrature particulière qui est celle de la préservation du site merveilleux, qui est la conséquence de 40 ans de politique. Je rappelle, 1983, Gérard Larcher est élu pour la première fois, important à donner. 1983, il est élu pour la première fois en tant que maire de Rambouillet. À ce moment-là, vous aviez le SDORIF. Qui était, et moi je me souviens, j'étais vice-président de la jeune chambre économique de Rambouillet, vous aviez le SDORIF, donc c'est en 85, qui prévoyait que Rambouillet, commune de Rambouillet, passe à l'époque de 19 000 habitants à, tenez-vous bien, 70 000 habitants. C'était la perspective qui était donnée pour 2000-2010. C'est-à-dire que tout le vallon du Moulinet était construit avec des immeubles entre 6 et 8 étages. Ça veut dire que toute la plaine derrière, justement, sur le Bel Air, était construite aussi, je dirais, jusqu'aux confins des limites de Goiseran. Ça veut dire aussi que toute la partie sur laquelle on se trouve, entre Rambouillet et Vieille Église, là, donc sur les terrains derrière la maison forestière qui se trouve au Paty, eh bien, était prévue en construction, en logements sociaux, en logements, etc. Donc, l'action... alors c'est pour la boutade, mais je me souviens de Gérard Larcher indiquant, disant voilà, le moyen de geler les terrains et de faire en sorte de préserver cet environnement, et c'est important par rapport à ce que tu veux aborder tout à l'heure, notre environnement, eh bien pour le préserver, on va irriguer les champs, et ça va geler pendant 18 ans, je me souviens de la durée, ça va geler pendant 18 ans la constructibilité des terrains, ça nous laissera le temps de modifier notre PLU. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et c'est la conséquence aujourd'hui, c'est la préservation de cet environnement. Imaginez Rambouillet, ville de 70 000 habitants.
L'optique ne sera pas la même, quoi.
Ah, l'optique serait plus du tout la même. Ouais. On serait une agglomération, ouais. Je dirais, de type Saint-Quentin. Ouais. Quoi.
Enfin, c'est pour ça que c'est plus le sport de masse que le sport d'élite, le Rambouillet, Gaël.
Alors, c'est une des raisons aussi. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand on veut préserver un environnement, en même temps, on est dans une recherche aussi de convivialité dans l'environnement particulier. Je dirais que la convivialité fait partie de la dimension du sport, au-delà de la performance. Enfin, au-delà. En parallèle à la performance, la recherche de la performance est une chose. Mais en même temps, faut-il qu'elle soit l'objectif à tout prix, à tout craint ? Je ne le crois pas. Je pense que, donc là, on est vraiment dans un système de valeurs, dans la manière dont moi je perçois, je dirais, ces notions-là. On est dans une logique de bon niveau, de trouver les bons équilibres entre la préservation de cet environnement tout en lui permettant d'évoluer, tout en faisant en sorte que le territoire reste jeune et dynamique. Donc à partir de là, il faut à la fois de l'activité économique, il faut que la démographie puisse trouver quelque part aussi à s'installer sur le territoire, mais de manière raisonnable et raisonnée. Le sport doit accompagner, je dirais, cette évolution et l'infrastructure dans laquelle on évolue, c'est-à-dire notre nature, le parc de la Haute-Vallée de Chevreuse, c'est-à-dire le plateau oudanais, etc., ont vocation à être préservés, à faire en sorte, non pas de dire que c'est un poumon vert de l'Île-de-France, c'est pas ça, poumon vert de l'Île-de-France, laisserait dire, on met une cloche au-dessus de notre territoire, on le fige, on lui met un gel et on le fige pour les décennies à venir. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de le faire évoluer, mais en relation ou en rapport avec ce que ses habitants, les habitants de ce territoire en attendent, et pas en fonction de ce que d'autres à l'extérieur veulent en décider. Donc, après, il faut trouver les justes équilibres entre l'intérieur et l'extérieur pour pouvoir le faire vivre, parce qu'on vit pas, on vit pas en autarcie. Mais justement, c'est ça que, en tout cas, en tant qu'élu régional aussi, je m'efforce de faire passer comme message.
Alors, on en vient donc aux animations hein, pour 2019. Il y aura encore quelques manifestations en cette fin d'année 2018, comme le tournoi des fines lames hein, pour l'escrime. Le premier gros rendez-vous, c'est Hervé Joly qui nous a appelé la semaine dernière. Ça sera le 17 mars, semi-marathon de Rambouillet. Hein, c'est l'épreuve sportive la plus ancienne.
Ah oui, alors ce semi-marathon.
C'est confirmé, hein, 17 mars. Arnaud, ça sur la moto.
J'ai plus la date précise en tête, mais je crois que c'est bien. Oui, effectivement.
Non, c'est confirmé. Hervé nous l'a appelé personnellement la semaine dernière.
17 mars, oui, le semi-marathon, ouais. Épreuve emblématique. Tout à l'heure, je parlais à la fois des financements, etc. Donc, on accompagne ce semi-marathon et on fait en sorte qu'il puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. J'ai souvenir avec Hervé Joly, que je connais depuis très longtemps, d'avoir une petite passe d'armes. Tu parlais des fines lames. Donc, voilà, c'est là où je dis que quelque part, c'est important, c'est toujours de pouvoir être ouvert et de pouvoir engager le dialogue et de pouvoir échanger de manière profonde, sincère, sans arrière-pensée. Nous avions une problématique particulière. Hier, qui était la mise en sécurité liée aux attentats. Et il fallait trouver des solutions, il fallait se donner le temps de trouver des solutions pour faire en sorte que nos compétitions de masse puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Pour ça, aujourd'hui, il y a des contraintes qui nous sont imposées par des règles nationales. D'une part, faut savoir une chose, c'est que l'organisateur est le responsable de la sécurité. Donc ce qui veut dire que si jamais il y a un problème qui est rencontré, celui qui va être recherché en responsabilité, c'est pas tant la ville de Rambouillet, pardon, que le président de l'association qui a mis en place. Donc nous, on est là à la fois pour l'accompagner, pour couvrir, je dirais, les dégâts potentiels qu'il pourrait y avoir, en tout cas pour anticiper, faire en sorte que rien ne se passe à ce niveau-là. Donc on avait pris la décision de supprimer nos grandes épreuves qui étaient ouvertes sur l'extérieur et pour lesquelles, notamment, ça a été le cas de la corrida.
Oui,
ça
a été, qui a lieu cette année. Hein,
et qui a lieu cette année. Voilà.
Ils viendront parler au mois de décembre.
Voilà, ouais. Ben, début décembre, parce qu'en fait, la corrida va avoir lieu mi-décembre. Mais il nous fallait trouver des solutions en matière de sécurité. Donc, on a pris le temps de le faire. On a travaillé sur ce projet en relation directe avec l'association, avec les forces de sécurité, la police, avec la police municipale, la police nationale, avec les services techniques en matière de mise en place, je dirais, d'infrastructures spécifique et temporaire pour accompagner ces grands projets. Mais imaginez, vous avez 2300, 2400 personnes qui sont alignées. Moi, ce qui s'est passé à Nice, mais j'en ai encore le souvenir et les frissons dans la peau. Et ça peut se produire partout et n'importe où. Donc, toutes les précautions sont prises pour faire en sorte que nous soyons dans une logique, dans une approche de sécurité qui soit optimale. Et ça, c'est important. Il y a eu à la région, il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 jours, un colloque organisé sur la radicalisation dans le sport. On est aujourd'hui, il faut le savoir, on est, même si jamais on est rentré dans une logique de je vais presque dire d'accoutumance, mais on est quand même dans une logique, je dirais, de conflit dur, pour pas parler de guerre. C'est un mot, elle n'est pas terminée pour moi. Ce mot est encore d'actualité et nous devons continuer à vivre tout en prenant en compte cette contrainte-là. Nos opérations, je dirais, nos grandes manifestations de masse, bien évidemment, doivent pouvoir l'intégrer. Moi, je suis très content que ça puisse se réaliser. Je suis très content, pourquoi ? Parce que derrière, c'est l'âme de Rambouillet qui, en même temps, trouve ici le moyen de s'exprimer, à la fois au travers de son tissu de bénévoles. Je rappelle, je crois qu'il y a plus d'une centaine de bénévoles qui vont être présents sur le parcours, genre même largement plus, présents sur le parcours en tant que signaleur, en tant qu'organisateur, en tant que, présence de sécurité, etc. Et donc on a, pour gérer l'intendance, il faut alimenter tous ces coureurs, tous ces sportifs, et donc, et en même temps, on se doit de donner derrière, pour tous ceux qui viennent courir, eh bien cette image, non pas pour se faire plaisir uniquement, mais le fait que nous soyons bel et bien dans un territoire qui est extrêmement dynamique, un territoire qui vaut la peine d'être à la fois préservé, je le disais tout à l'heure, mais en même temps qui doit permettre de faire vivre les populations qui sont à l'intérieur en lien avec toutes celles qui sont quelque part qui nous envient. Moi, je le dis, on est largement enviés.
Voilà, alors le deuxième rendez-vous prévu, on va pas vous mettre en difficulté, on va pas dire que les élus font la langue de bois, hein, ouais. Gaël. Ouais. C'est le Tour de France. Il y a des articles un peu partout qui sont passés. Hervé est candidate sur la route du Tour. On saura donc ça jeudi. Donc nous on sera en direct. Bonne ou mauvaise nouvelle, on la donnera aux auditeurs d'Hervé. Rambouillet, s'ils avaient le Tour, ce serait à nouveau une belle reconnaissance.
Moi je le dis.
S'il y avait le Tour de France.
Moi je le dis depuis maintenant 2 ans. C'est
une belle reconnaissance quand même.
Si on peut avoir une épreuve telle que le Tour de France à Rambouillet, évidemment, je peux que m'en réjouir. Pourquoi ? Parce qu'une épreuve telle que celle-là, c'est à la fois de la notoriété, c'est à la fois en même temps de l'engagement. Moi, j'ai souvenir en 2012, quand nous sommes allés à Épernay, je sais plus si tu étais avec nous, mais en tout cas, moi, je suis allé à Épernay pour voir comment ça se passait en matière d'organisation. Aïe, zut, j'ai donné le nom de la commune. J'avais posé la question de savoir si oui ou non, où étaient les bénévoles, parce que dans le discours qui avait été présenté, c'était merci aux bénévoles. Et en fait, les bénévoles étaient malheureusement trop peu nombreux là-bas, en tout cas, ma manière d'aborder les choses sur Rambouillet, j'ai le souvenir, il y avait 106 bénévoles qui se sont investis durant une quarantaine d'heures d'affilée, sans dormir, avec un enjeu particulier relatif au contrôle. Quand j'ai annoncé que nous allions avoir des bénévoles, notamment issus du monde du cyclisme, le directeur du départ du Tour, mais de manière ferme et péremptoire, dit « Ah non, Gaël, pas de passionné de vélo ». Pas d'adhérents cyclistes en tant que bénévole pour accompagner. J'ai dit, mais pourquoi ? Il me dit, mais c'est parce qu'ils sont tellement passionnés, tu comprends, Gaël, qu'au moment, où leur idole va passer devant eux, eh bien, ils vont lâcher leur poste pour prendre leur appareil photo, leur téléphone, etc., pour prendre une photo, ils vont ouvrir le dispositif, et on a déjà eu ça, avec 700 personnes présentes sur la piste, on était obligés d'arrêter la course. Je ne veux pas de ça. Je lui dis, mais tu connais pas les bénévoles à Rambouillet ? Ah bon ? Tu ne connais pas les bénévoles. Moi, je m'engage par rapport à eux, et par rapport à la manière, et au respect, je dirais, des engagements qui seront les leurs. Eh bien, on a eu un Tour de France, clairement, un Tour de France en 2012 qui n'a suscité aucun retour négatif, aucun.
40 000 personnes.
La ville elle-même. 40 000 personnes présentes dans les rues de Rambouillet, du jamais vu. 40 000 personnes. Aucune difficulté, je dirais, en termes de sécurité. Tout s'est passé, a été huilé, etc. Alors, si jamais un jour on a le Tour de France à nouveau à Rambouillet, parce que c'est vrai que moi j'aspire, ce que je disais tout à l'heure, depuis 2012, j'y ai pris goût, j'aspire à ce qu'on ait le Tour de France. Bien évidemment, pouvoir en parler aujourd'hui, c'est compliqué, tout simplement, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de préserver les années à venir la possibilité de travailler avec ASO. Et donc, ce qui est important, que ce soit cette année, l'année prochaine, l'année suivante, pour pour moi, le Tour de France a une raison d'être à Rambouillet. D'autant plus que hier j'étais au championnat du monde de cyclisme sur piste. J'étais à Saint-Quentin. Oui,
il faut dire c'est d'abord c'est un beau spectacle.
J'ai découvert parce que j'ai roulé sur la piste. J'ai eu ce privilège de rouler sur la piste, de tester, je dirais, mes capacités à tenir en équilibre sur un mur de 8 mètres de haut. Donc en étant pratiquement à l'horizontale en ce qui me concerne, en étant au niveau du vélo. Là j'ai découvert une ambiance. C'était la première fois que j'ai découvert une ambiance extraordinaire. C'est impressionnant,
sympa.
Quoi.
Des types super sympas,
une convivialité. Mais hier, j'ai rencontré donc la ministre des Sports. Elle était présente et évidemment, je n'ai pas manqué de lui faire part de l'intérêt qui était le nôtre pour la grande manifestation, la capacité d'accueil en zone rurale. Et bien évidemment, 2024, je l'ai en ligne de mire. Et tout ce que je peux mettre en place aujourd'hui au niveau des grands événements, c'est pour pouvoir faire reconnaître notre territoire au titre du sport de masse sur notre département et dans le sud des Yvelines. Pourquoi c'est important ? Parce que ça procède de ce que je voulais dire tout à l'heure. Les deux choses à prendre en ligne de compte, c'est à la fois travailler sur le développement économique, mais il faut qu'il soit dans une logique, dans une cohérence particulière, il faut qu'il soit en adéquation avec les capacités de notre territoire, et la préservation elle-même du territoire. Et ces grandes manifestations peuvent répondre à ce genre d'enjeu. 2024 peut, au travers de ce qui est recherché, c'est-à-dire l'héritage à la fois matériel et immatériel, c'est-à-dire sur les infrastructures, comme sur la manière d'aborder, je dirais, l'environnement, le développement économique, etc., les Jeux Olympiques, pour moi, répondent à ces grands enjeux-là. Au niveau de la région, ça soulève une réflexion de l'équipement, notamment véhicules électriques, etc., par rapport à nos zones rurales. Il y a vraiment des enjeux qui sont forts liés à ce type de manifestation. Alors maintenant, pour répondre à ta question sur le Tour de France, cette année, l'année prochaine ou l'année suivante, évidemment, moi, j'aspire à ce que le Tour de France soit sur Rambouillet. Alors, ça complète certaines grandes manifestations. Il y en a deux autres. Ah oui, je suis vraiment bavard.
Justement, je voulais dire. Donc nous, on donnera la réponse aux auditeurs jeudi. Ouais. On sera là-bas sur place. Arnaud, ouais, il sera aussi. Et puis, on donnera la bonne ou la mauvaise nouvelle pour savoir si le Tour de France sera sur Rambouillet. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura deux épreuves sur Rambouillet. Une au mois d'août concernant l'équitation et une autre concernant le cyclotourisme.
Ouais. Alors, ça, c'est deux belles manifestations. Ouais. Qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir les accueillir.
Ça procède de ce que je disais tout à l'heure.
Voilà. Et donc, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je parlais de développement économique. Ça veut dire qu'on a un vrai enjeu sur Rambouillet par rapport au développement économique lié justement à ce type de manifestation. Je vais commencer par la Paris-Brest-Paris.
Paris-Brest-Paris. Ça sera au mois d'août. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu venir à Saint-Quentin.
Alors, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu. C'est ce qu'on dit partout, mais c'est pas qu'ils n'ont pas voulu. C'est que ça devient compliqué à Saint-Quentin. Quand il y a 6000 vélos qui vont démarrer en l'espace de moins de 15 heures partir d'une base, la succession des feux rouges, des carrefours, la circulation automobile, la densité urbaine, etc., pose un problème de sécurité, pose un problème d'organisation majeur, qui fait que l'ODAX, qui organise cela, était ressenti comme donnant des contraintes permanentes, supplémentaires, etc. Mais ce n'est pas des contraintes. C'est pas les contraintes que eux demandaient, c'est en supplément. C'était les contraintes d'environnement qui faisaient que, nécessairement, ils étaient, eux, dans la difficulté. Et donc, à Rambouillet, on a justement cette chance, sur notre territoire, de pouvoir les accueillir au mois d'août. Alors, je le répète, je le rappelle, cette randonnée, c'est pas une course, c'est une randonnée.
Presque
les vélos, il y a 1200 kilomètres à parcourir. Après, il y en a certains qui se donnent des enjeux, des enjeux personnels. Ça, c'est leur problème. C'est plus le problème de la course en soi. Il y en a qui, en moins de 20 heures, font l'aller-retour sur les 1200 kilomètres. Donc, ils arrivent, ils s'effondrent, quoi. Physiquement, ils sont plus, voilà.
Alors, on envoie la pub. On reparle du Paris-Brest-Paris et puis de ce qui attend aussi en matière d'équitation. OK?
Avec grand plaisir.
Allez, on y va.
Chérie, t'as pensé à acheter un cadeau pour la soirée chez Clémence samedi soir?
Mais oui, mais je sais pas où aller. Je voudrais trouver quelque chose d'original.
Va chez Alcide et Léonie.
Où ça?
Chez Alcide et Léonie. C'est un concept store génial. Il y a un choix exceptionnel en déco et en mobilier design. Avec des marques comme Hey, Fatboy, Muto et plein d'autres marques tendances. Tu es sûr de leur trouver LE cadeau original.
Alcide et Léonie, vos concept store déco et ameublement. À retrouver à Dampierre en Yvelines, à Montfort-l'Amaury et à Versailles Place Hoche.
Vous voulez vendre? Acheter un bien sur Offargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Bienvenue au Savoyard, 46 rue d'Angivillers à Rambouillet. Depuis 30 ans, le restaurant Le Savoyard propose une cuisine traditionnelle française et aussi des spécialités savoyardes. Le tout fait maison. Alors pour un moment convivial entre amis ou en famille, votre restaurant Le Savoyard vous accueille du mardi au samedi soir. Le Savoyard, 46 rue d'Angivillers. Téléphone 01 34 83 35 77.
Du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir. C'est plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh, ni d'éternel. Non, 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 le temps a abjuré, sans peur du sel, le naturel. D'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur.
Dimanche,
10h-11h,
sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Donc, il y aura le Paris-Brest-Paris mi-août, et auparavant, il y aura cette épreuve qui va réunir beaucoup de cavaliers et cavalières.
L'équirando.
Oui, l'équirando. Énorme événement début août.
Voilà, hein, qui est monté avec le comité régional d'équitation d'Île-de-France, le CREF. Donc, pour terminer sur la Paris-Brest-Paris, évidemment, ça va être un moment pour faire en sorte que Rambouillet puisse, dans la mesure du possible, apporter aussi des réponses d'un point de vue logistique. Alors, pas Rambouillet en tant que municipalité, commune, etc., mais en tant que au niveau des habitants, au niveau des commerçants, il y a un véritable enjeu derrière de dynamique économique, et je pense qu'il est important de la prendre en compte. Concernant les quirando, on est dans une logique aussi. On voit, il y a le vélo et le cheval. Je parlais tout à l'heure de la préservation de notre environnement, tout en profitant, je dirais, en donnant une dynamique par rapport à notre territoire. Les quirando, c'est le Haras des Brévières qui va accueillir les quirando et pas la ville de Rambouillet. Par contre, la proximité fait que Rambouillet devient un axe majeur de pénétration de l'équirando, dont je rappelle, c'est une randonnée à cheval qui va regrouper environ 1000 chevaux. Faut imaginer ce que c'est, hein. 1000 chevaux mis bout à bout les uns derrière les autres, c'est 5 kilomètres d'affilée, quoi. Mmh. Et donc, ces chevaux vont venir de l'Europe entière. Ils ont une contrainte, c'est de faire dans les 3 derniers jours un minimum de 100 kilomètres avec leurs cavaliers. Donc, on est dans cette logique-là.
Très bien, bah c'est bien, il y aura beaucoup de choses, hein. On va se régaler. Vous savez ce qu'on fait, Gaël ? Nous, on sera à Paris, donc jeudi. S'il y a une bonne nouvelle, on vous appelle.
Ah bah avec plaisir, appelez-moi.
Hein, on vous appelle. D'accord ? Et puis comme ça, bah, hein, on verra. Voilà. Arnaud, un petit mot ?
On parle de vélo, de cheval. Vous nous parliez aussi tout à l'heure des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a une volonté en termes de Jeux Olympiques en ce qui concerne la ville de Rambouillet, le sud des Yvelines ?
Alors, sud des Yvelines, évidemment. Ouais. Sud des Yvelines, évidemment. Ça procède de ce que je viens de dire.
Contre
c'est-à-dire
montre,
que
hein, c'est ça, de vélo.
Ce serait le contre-la-montre et ou le pentathlon, en tout cas aussi base arrière. Mmh. Donc, derrière tout ça, c'est la possibilité d'accueillir à la fois gérer la zone d'équitation. Pour les Kirando, c'est les habitants qui vont être sollicités pour pouvoir accueillir un cheval, un cavalier, etc. Donc, on a vraiment, avec en perspective donc les Jeux Olympiques, on a monté tout un projet qui tient compte d'un héritage. Je le disais tout à l'heure, héritage matériel et immatériel en matière d'éducation, de suivi, de sécurité, notamment sur les déplacements.
On aura largement l'occasion, Gaël, d'en reparler. Voilà.
Mais Philippe, tu as compris. Pour
merci
moi, c'est une vraie passion.
Voilà, absolument. Merci en tout cas. Merci aussi à Arthur d'avoir été ce matin brillamment une nouvelle fois aux manettes. Rendez-vous la semaine prochaine. Tiens, c'est Daniel Potra qui sera là la semaine prochaine en personne, l'ancien grand journaliste de TF1, spécialiste du ski et du vélo. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine.
Merci
à Daniel Potra. Salut, merci.
Merci aux éditeurs.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale.
RVE, bonne matinée. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, Radio France va porter plainte après les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise, dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, fustige les journalistes de la cellule Investigation de Radio France. Il les qualifie de menteurs et de tricheurs et appelle ses partisans à les pourrir. Des propos tenus au facturation de la société de sa conseillère en communication, Sophia Chikirou. 4 interpellations après une agression homophobe à Paris vendredi soir. Les faits se sont déroulés boulevard Sébastopol, dans le 1er arrondissement de Paris. 4 hommes sont soupçonnés d'en avoir agressé un autre en prononçant des insultes homophobes. La victime est hospitalisée. Une enquête est ouverte.